Nous allâmes donc nous asseoir sur le parapet qui bordait la route et nous commençâmes à dévorer le pain craquant et doré d'autrefois, le tendre saucisson marbré de blanc, où je cherchais d'abord le grain de poivre, comme la fève du gâteau des rois, et l'orange longtemps bercée sur les balancelles espagnoles. Cependant, ma mère disait soucieuse, « Joseph, c'est bien loin. » « Et nous n'y sommes pas encore, » dit joyeusement mon père. « Il nous reste au moins une heure de marche. »« Aujourd'hui, nous n'avons pas de paquet, mais quand il faudra monter des provisions, on les montera, » dit mon père. « Maman, nous sommes trois hommes, » dit Paul. « Toi, tu ne porteras rien. » « Bien sûr, » dit mon père, « ce serait une promenade un peu longue, mais tout de même, une promenade hygiénique. De plus, nous ne pourrons venir que pour la Noël, Pâques et les grandes vacances, en tout trois fois par an. Et puis nous partirons le matin de bonne heure et nous déjeunerons sur l'herbe à mi-chemin. Puis nous nous arrêterons encore une fois pour goûter. Et ensuite, tu as vu ces rails ? Je viens en parler au frère de Michel qui est journaliste. Il est inadmissible qu'on les laisse se rouiller si longtemps. Je te parie qu'avant six mois, le tramway nous déposera à La Croix, c'est-à-dire à 600 mètres d'ici. Il ne restera pas une heure de marche. » À ces mots, je vis jaillir les rails de l'herbe et s'encastrer dans les pavés, tandis que s'annonçait au loin le sourd grondement d'un tramway. Toutefois, levant la tête, ce n'est pas la puissante machine que je vis arriver, mais la branlante pyramide de notre déménagement. Paul poussa un cri de joie et courut à la rencontre du mulet. Le paysan le prit par les hanches et le mit à califourchon sur l'encolure de l'animal. C'est ainsi qu'il vint à notre hauteur. Cramponné au collier, ivre de fierté et de peur, il avait un petit sourire à mi-chemin entre la joie et la panique. Cependant, une honteuse jalousie me dévorait. La charrette s'arrêta et le paysan nous dit « Maintenant, on va installer madame. » Il plia en quatre un sac qu'il étala sur le plateau du véhicule à la naissance du brancard. Mon père y posa ma mère les jambes pendantes, plaça dans ses bras la petite sœur dont la bouche était entourée par des festons de chocolat et se mit en marche auprès d'elle, tandis que grimpé sur le parapet, je suivais en dansant l'équipage. Paul, non seulement rassuré mais triomphal, se balançait gracieusement d'avant en arrière, au rythme des pas du mulet, et je contenais difficilement une envie brûlante de sauter en croupe derrière lui. L'horizon devant nous était caché par les hautes futaies couronnées de feuillages qui bordaient les lacets du chemin. Mais après 20 minutes de marche, nous découvrîmes tout à coup un petit village, planté en haut d'une colline, entre deux vallons. Le paysage était fermé, à droite et à gauche, par deux appics de roches que les Provençaux appellent des barres. « Voilà le village de la Treille, » dit mon père. Nous étions au pied d'une montée abrupte. « Ici, » dit le paysan, « il faudrait que madame descende et que nous poussions un peu la charrette. » Le mulet de lui-même s'était arrêté et ma mère sauta sur le sol poudreux. Le paysan détrôna Paul, puis sous le ventre du chariot, il ouvrit une sorte de tiroir et en sortit deux gros coins de bois. Il en tendit un à ma mère surprise. « C'est des cales, » dit-il. « Quand je vous le dirai, vous poserez cela par terre derrière la roue de ce côté. » Elle parut heureuse de collaborer à une entreprise d'homme et prit la grosse cale dans ses petites mains. « Et moi, » dit Paul, « je mettrai l'autre. » Sa proposition fut acceptée. Je fus profondément vexé par cette nouvelle violation du droit d'aînesse. Mais j'eus une revanche éclatante car le paysan me tendit son fouet, un très gros fouet de roulier, et me dit « Toi, tu frapperas le mulet. » Sur les fesses, de partout et avec le manche. Puis il cracha dans ses mains, rentra la tête dans ses épaules, et les deux bras en avant, il s'arc-bouta contre l'arrière du chariot. Son corps était presque horizontal. Mon père prit la même posture. Alors le paysan hurla quelques injures graves à l'adresse du mulet, puis me cria « Pique, pique !» et il poussa de toutes ses forces. Je frappai la bête, non pas méchamment, mais comme pour lui donner le signal de l'effort. Tout l'équipage s'ébranla. Il parcourut une trentaine de mètres, alors le paysan s'enlevait la tête entre deux halètements, cria « La cale, la cale !» Ma mère, qui suivait la roue, posa prestement le coin de bois sous la jambe de fer. Paul l'imita avec une aisance remarquable, et le véhicule s'immobilisa pour un repos de 5 minutes. Le paysan le mit à profit pour me dire qu'il fallait frapper beaucoup plus fort, et de préférence sous le ventre. Paul hurla « Non, non, je ne veux pas !» Et comme mon père allait s'attendrir sur la bonté du petit bonhomme, Paul montra du doigt le paysan surpris et cria « Il faut lui crever les yeux !»« Oh, oh !» dit François indigné. « Me crever les yeux à moi? Qu'est-ce que c'est ce sauvage? Je crois qu'il vaudrait bien l'enfermer dans le tiroir. » Il fit mine de l'ouvrir. Paul courut s'agripper au pantalon paternel. « Voilà ce que c'est, » dit gravement mon père, « de vouloir crever les yeux aux gens. On finit par se faire enfermer dans des tiroirs. »« Ce n'est pas vrai, » hurla Paul, « et moi je ne veux pas. Monsieur, » dit ma mère, « nous pourrions peut-être attendre un peu. Je crois qu'il a dit ça pour rire. » Même pour rire, dit François, ce n'est pas des choses à dire, me crever les yeux. Juste le jour que je me suis acheté une paire de lunettes pour le soleil. Il sortit en effet de sa poche un pince-nez à verre noir qu'un camelot vendait 4 sous au marché. Tu pourras les mettre quand même, dit Paul de loin. Mais malheureux, dit le paysan, quand on a les yeux crevés, si en plus on met des lunettes noires, alors on n'y voit plus rien du tout. Enfin, pour cette fois, je ne dis rien, allons-y. Chacun reprit sa place. Je frappai le mulet sous le ventre, pas trop fort, mais en hurlant des ordres dans ses oreilles, tandis que le paysan l'appelait carcan, carogne, et l'accusait de se nourrir d'excréments.